Chers frères et sœurs, bon nombre d'entre nous ont participé à la procession au flambeau du 8 décembre, cette procession mariale à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Et nous sommes en action de grâce car nous avons vu que la Vierge Marie rassemblait ses enfants. Et comme nous nous le disions entre chanoines, nous avons touché là ce qu'on pourrait appeler un troisième cercle de fidèles qu'on ne voit pas habituellement et qui ont été attirés par ce signe de la procession nocturne. Plût à Dieu que nous ayons souvent ce type d'expression de la foi populaire, religiosité populaire. C'est un des chevaux de bataille du pape François, lui qui est latino-américain. Dimanche dernier, l'évangile était tiré de la fin de l'évangile de saint Marc, puisque nous étions dans la perspective du retour du Christ à la fin des temps. Aujourd'hui, nous écoutons les tout premiers versets de cet évangile qui sera le fil conducteur de toute cette année liturgique, qu'on appelle d'un nom très administratif et assez rebutant, année B. Je rêve que l'on rebaptise les années liturgiques selon l'évangile qu'elles suivent. Année Saint-Matthieu, année Saint-Marc, année Saint-Luc. Alors vous allez me dire, il y aurait une discrimination par rapport à Saint-Jean. Au contraire, il est partout, lui. Il est dans les trois années. Et vous noterez que pendant l'année Saint-Marc, comme cet évangile est plus court, il y a une petite incursion dans l'évangile de saint Jean vers le mois d'août. Et on lit à ce moment-là, sur cinq dimanches d'affilée, le discours sur le pain de vie, qui est un des sommets de toute la Bible. Et donc, c'est bien l'année Saint-Marc. Nous savons par saint Irénée, qui est un des plus anciens témoins du christianisme après la génération des apôtres, puisqu'il a vécu au deuxième siècle, n'est-ce pas, saint Irénée, l'un des tout premiers évêques de Lyon. Nous savons par lui que l'évangile de Marc est la mise par écrit de la prédication de saint Pierre. C'est tout de même intéressant. Saint Pierre qui a d'abord été compagnon de saint Paul, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres, et qui ensuite a accompagné saint Pierre à Rome. Cela aussi est attesté par le Nouveau Testament. Saint Irénée dit que Marc est le disciple et l'interprète de Pierre. Donc chaque fois que nous écouterons un passage de l'évangile de saint Marc au cours de cette année liturgique, pensons que nous écoutons la prédication de saint Pierre. Marc commence son évangile par une expression qui a une allure de titre et qui indique la visée de tout cet évangile. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bon, l'évangile, nous savons tous, évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est le mot par excellence pour parler de tout ce qui concerne le Christ. Jésus, mais Christ. Voyez, en christianisme, Jésus-Christ, c'est deux mots qui sont toujours accolés. C'est au point qu'en espagnol, pour ceux qui connaissent cette langue, on a créé un seul mot, Jesucristo. voyez, c'est attaché. Ben, en français, on met parfois le trait d'union. Jésus qui est Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot Christ ? Christ, c'est un mot grec, l'équivalent grec de l'hébreu Messie, et qui signifie littéralement en français loin. Loin, les enfants. O-I-N-T. Alors, ça doit être un verbe irrégulier. Non, c'est le verbe oindre. Oindre. Voilà. Donc, quand on dit. Il faut toujours se rappeler cela. Hein. Alors, vous allez me dire, Jésus, il n'est pas roi. Qu'est-ce que vous chantez qu'il est oint ? Il a reçu l'onction. Ben, il nous le dit lui-même. C'est dans Saint Luc, quand il entre un jour à la synagogue de Nazareth, on lui présente un rouleau de la, comme faisaient les Juifs, et il tombe, alors c'est un petit coup de la Providence quand même, hein, il tombe sur le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » D'accord ? Et il dira, cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Donc, il est bien celui qui est oint, consacré par l'Esprit-Saint. Jésus-Christ. Alors, en bon français, on dit Jésus-Christ et Jésus le Christ. Et puis, Fils de Dieu. Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Voilà, Saint Marc par là veut montrer, et ce sera tout l'objet de son évangile, ce sera comme un cheminement pour nous faire découvrir que d'une part Jésus est bien le Christ, le Messie annoncé par les prophètes, et d'autre part le Fils de Dieu. Alors vous avez comme cela au cœur même de l'Évangile, la confession de Pierre, justement, qui, en réponse à la question de Jésus à ses apôtres, vous vous souvenez, « Qui dites-vous que je suis ? Pour vous, qui suis-je ?» répond « Tu es le Christ. » La profession de foi par excellence. Grande profession de foi. Donc, Jésus est le Christ. Et vous avez une autre profession de foi, tout à la fin de l'Évangile, et le plus stupéfiant, c'est que nous la trouvons dans la bouche d'un païen. C'est quand le centurion, à la croix, est ébloui par le Christ. Voilà ce que nous dit Saint Marc. Le centurion qui se trouvait en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » D'accord. Vous savez, c'est bien construit l'évangile de Saint Marc. Donc vous avez, ça commence par l'affirmation « Jésus-Christ est fils de Dieu » et tout à la fin, vous retrouvez cette affirmation. Ça prouve que c'est le cœur même du message. D'accord. Saint Marc pourrait très bien faire sienne cette affirmation de Saint Jean à la fin de son évangile, vous vous souvenez peut-être, « Tout cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On pourrait dire aussi, nous rappeler toujours ceci, « Chrétien vient de Christ ». Donc nous ne sommes pas les partisans, hein, c'est pas un parti politique, mais nous sommes bien les disciples de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est pas juste une affirmation comme ça extérieure, mais c'est que nous sommes appelés nous aussi en Jésus-Christ à être fils de Dieu et nous le sommes déjà par notre baptême. Et chaque fois que nous communions au corps du Christ, eh bien, nous pourrons dire, nous sommes un peu plus divinisés, nous devenons un peu plus encore enfants bien-aimés de Dieu. Donc, tout cela est très concret. Il nous faut tout de même dire un petit mot de Saint Jean-Baptiste, sinon vous allez dire que ça ne va pas du tout, puisque le deuxième et le troisième dimanche de l'Avent sont quand même des dimanches placés sous le signe de ce personnage singulier de toute l'histoire du salut, n'est-ce pas, Jean-Baptiste. Alors là, ils disent, traduction liturgique, Jean celui qui baptisait. Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Ou si vous préférez littéralement, le baptiseur. Mais il y a surtout un nom qu'on lui donne qui exprime bien en quoi consiste sa mission. C'est quand on dit Jean est le précurseur. Et là, c'est toujours intéressant de faire un peu d'étymologie parce que pré, c'est prae en latin, c'est devant, c'est au-devant. Et curseur, c'est pas le curseur, mais c'est courere, c'est coureur, si vous voulez. C'est celui qui court devant, d'accord ? Ben, il court devant, vous avez tout compris, c'est ça ? Il court devant le Christ pour annoncer sa venue aux hommes. Et ce sont les paroles que nous avons entendues, déjà dans la première lecture, « Préparez le chemin du Seigneur ». Et tous les évangélistes disent, mais oui, Saint Jean-Baptiste est celui qui réalise cette parole du prophète Isaïe. Et puis il y a la parole que nous retrouverons dimanche prochain dans l'évangile de Saint Jean. « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. » Donc s'il est derrière moi, c'est que je suis devant lui, n'est-ce pas, en bonne logique. Il est celui qui court devant. Un des plus grands pères de l'Église de langue syriaque, vous qui aimez cette langue, Saint Jacques de Sarrougue, dit excellemment au sujet de Saint Jean-Baptiste. Il ferme la porte sur l'ancienne alliance. Vous voyez, c'est comme s'il mettait un point final à l'ancienne alliance, le temps des prophètes, et il annonce aux foules l'éclatante beauté de la nouvelle alliance. C'est toute sa prédication que nous entendrons. Oui, frères et sœurs, Jean-Baptiste est véritablement à la charnière des deux alliances. Il a cette mission unique d'introduire le peuple juif et à travers lui toute l'humanité dans la nouvelle alliance. L'alliance nouvelle et éternelle dont il est parlé dans les paroles de l'institution de l'Eucharistie, n'est-ce pas ? Alors oui, frères et sœurs, répondons généreusement à l'appel de Jean-Baptiste. Engageons-nous sur le chemin de conversion qu'il nous indique pendant ce temps béni de l'Avent.